sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, venez commenter l'actualité de la semaine sur l'antenne d'RFI. 20 minutes pour réagir sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours dans l'actualité française, africaine, internationale, où que vous soyez dans le monde. Parlez-nous de l'actualité dans votre pays. La libre antenne, c'est aussi l'occasion de nous sensibiliser à des sujets dont on ne parle pas suffisamment, selon vous, sur notre antenne. En tout cas, vous êtes les bienvenus. 33 9 693 693 70 et les réseaux sociaux, notamment la page Facebook RFI, appel sur l'actualité. Des réactions après le drame d'hier à La Mecque. Bonjour Mokhtar. Vous êtes à Niamey au Niger. Je rappelle que plus de 700 personnes sont mortes hier dans une bousculade. Le bilan augmente et il a augmenté encore ces dernières heures. C'est la tragédie la plus meurtrière de ces 25 dernières années durant le Hajj. Deux cortèges de pèlerins se sont retrouvés face à face. Vous êtes, vous avez dit au standard, choqué, mais pas vraiment surpris.
C'est exact, Monsieur Gomez. Permettez-moi d'abord de présenter mes sincères condoléances à tous les parents qui ont perdu un proche. Je voudrais également manifester mon sentiment de choc. C'est choquant, d'autant plus de voir des milliers et des milliers de personnes mourir comme ça en accomplissant le rite spirituel du Hajj. Je suis pas également choqué, d'autant plus que quand on remonte un peu en 2004, au même endroit, au niveau du pont de Djamarat, la lapidation de Satan, il y a eu des morts. En 2006 également, il y a eu plus de 362 morts. Et aujourd'hui également, 2015, l'histoire se répète. Je pense qu'il faut totalement revoir les conditions de sécurité de cet endroit. C'est un défi énorme, on le reconnaît, pour Riyad d'organiser un tel pèlerinage qui regroupe plus de 2 millions de personnes. Mais je pense que il y a possibilité d'engager.
Alors, vous dites qu'il y a possibilité, d'améliorer les conditions d'accueil. C'est ce que font les autorités sur place depuis maintenant un certain nombre d'années. Il y a eu des travaux qui ont été réalisés, travaux de grande ampleur, notamment le pont où était survenu le drame de 2006 a été agrandi. Vous parlez de sécurité, il y a tout un dispositif de vidéosurveillance, 5000 caméras qui surveillent en permanence les lieux du pèlerinage. Il y a entre 80 000 et 100 000 policiers déployés ces jours-ci, 20 000 personnes chargées du dispositif médical et de la protection civile. Que faire de plus, Mokhtar?
Monsieur Gomez, je suis d'accord avec vous que les autorités saoudiennes sont en train de fournir de gros efforts pour améliorer les conditions de l'accomplissement du Hajj. Mais Monsieur Gomez, comment peut-on comprendre avec un tel dispositif sécuritaire de plus de 100 000 policiers, qui est deux groupes qui passent sur la même voie? Je pense que là, la responsabilité est à situer au niveau sécuritaire. La sécurité a failli. Il lui fallut pour le système sécuritaire d'organiser les allers et retours. C'est pas concevable qu'on dise que deux groupes, n'est-ce pas, ceux qui vont à la lapidation et ceux qui reviennent de la lapidation puissent se croiser.
Tout à fait.
C'est une responsabilité.
Normalement, si vous voulez, chaque allée est à sens unique. Donc, théoriquement, deux cortèges de pèlerins ne sont pas censés se retrouver face à face. Vous pointez la responsabilité des services de sécurité, Mokhtar. Le ministre saoudien de la Santé, lui, attribue cette bousculade aux pèlerins. Il estime que les pèlerins n'ont pas suivi les instructions. Autrement dit, les autorités saoudiennes mettent en cause l'indiscipline des fidèles.
Mais Monsieur Gomez, les forces de l'ordre, elles ont la responsabilité d'imposer un comportement aux pèlerins. C'est leur travail, c'est leur responsabilité. Il faut le reconnaître qu'elles ont failli, ces forces de l'ordre, à leur obligation qui est d'assurer la discipline et l'ordre. Elles sont là pour veiller à la discipline. Ouais. Donc je pense qu'il faut situer les responsabilités, approfondir les enquêtes et dorénavant prendre toutes les dispositions nécessaires pour que de tels événements ne puissent se produire.
Merci. Oui. Merci à vous, Mokhtar. Aristide souhaitait également réagir. Lui préconisait de réduire le nombre de pèlerins, de revoir les quotas. Alors, chaque pays a droit à 1000 pèlerins par million d'habitants. Les quotas ont déjà été revus à la baisse. Et le problème, en fait, c'est que certains pèlerins participent aux célébrations sans avoir le fameux permis, la fameuse autorisation. L'année dernière, par exemple, 340 000 fidèles ont été refusés, refoulés, car ils n'avaient pas donc cette autorisation. Merci Mokhtar, bonne journée à vous, merci de nous avoir appelé. Le Congo-Brazzaville suscite beaucoup de réactions au standard, d'ailleurs nous organiserons un débat lundi sur l'annonce cette semaine du président Denis Sassou Nguesso d'organiser un référendum en vue de changer la constitution. Alors l'opposition accuse le chef de l'État de vouloir se maintenir au pouvoir. Bonjour Norbert.
Bonjour Monsieur Rouen et bonjour à votre remarquable équipe.
Merci pour eux, vous êtes à Brazzaville et comme l'opposition, Norbert, vous dénoncez un coup d'État constitutionnel.
Exactement Monsieur Rouen, là le président en faisant cette annonce vient de perpétrer un parfait coup d'État constitutionnel qui malheureusement prépare le bûcher sur lequel il va... Il veut brûler son peuple et il nous a montré qu'il est plus attaché à son pouvoir personnel qu'à l'intérêt général de son peuple.
Mais pourquoi parlez-vous de coup d'État constitutionnel ? Lui, il a été très clair, le chef de l'État, il a dit « Je veux que le peuple s'exprime, je veux donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce. »
Bon, il veut donner la parole au peuple, mais ce n'est pas dans ces conditions, parce qu'il faut donner la parole au peuple dans les balises fixées par la Constitution. Nous avons dans la Constitution congolaise l'article 57, qui fixe le nombre de mandats à 2.
Oui.
2, c'est un article, c'est une disposition intangible, canonique, sacro-sainte à laquelle on ne peut pas toucher. Malheureusement, il a remis en cause cela, et même, vous voyez, l'Union africaine. Dans ces dispositions, l'Union africaine interdit les changements de constitution qui sapent l'alternance, le principe même de l'alternance démocratique. Donc vous comprenez que toute cette manœuvre vise simplement à briguer un troisième mandat et sinon à s'éterniser au pouvoir.
Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que la Constitution est claire. Elle dit que le nombre de mandats du président de la République ne peuvent pas faire l'objet de révision. Malgré tout, le peuple, pourquoi n'aurait-il pas le droit de dire oui ou non à une modification de la Constitution?
Monsieur Rouen, le peuple congolais ne s'est jamais exprimé sur la question.
Nous avons justement, Norbert, raison de plus de lui donner la possibilité de le faire par la voie des urnes, par la voie d'un référendum.
Bon, imaginez, Monsieur Rouen, que dans tous les pays du monde, un chef d'État se réveille un bon matin et pense qu'il y a une disposition qui le gêne à s'éterniser au pouvoir et colle au peuple, justement, si vous voulez, prête au peuple ses propres intentions, pour ne pas dire ses propres fantasmes. Je crois que le monde irait vraiment à volo. Donc, ce qui fait la démocratie, c'est le respect de la loi, Monsieur Rouen. Sans loi, il n'y a pas de démocratie. Regardez même au Burkina, au Burundi, pourquoi les gens arrivent à ce chaos? C'est parce que, justement, au centre se trouve le problème du respect de la loi. Quand le code Rousseau existe, il faut virer. Quand vous clignotez à gauche, vous allez à gauche, mais il faut le faire, M. Rouen. Quand vous clignotez à gauche, vous allez à droite pour vos intérêts personnels. Là, décidément, c'est le monde à l'envers.
Norbert, merci de nous avoir appelés. Bonne journée à Brazzaville et on aura l'occasion, évidemment, de prolonger ce débat et cette réflexion autour du référendum constitutionnel au Congo-Brazzaville. Je vous rappelle qu'aucune date n'a été communiquée, pas de calendrier. Le chef de l'État a été assez évasif là-dessus. Il a dit prochainement. Donc on aura l'occasion évidemment d'en parler. J'imagine que vous serez très très nombreux. Jean de Dieu nous appelle d'Australie. Bonjour. Jean de Dieu. Alors, on entend les voitures, c'est formidable, mais j'aimerais bien qu'on entende Jean de Dieu. Pour tout vous dire...
Oui, je l'entends.
Ah, vous êtes à l'antenne. J'allais dire quelque chose aux auditeurs. C'est vrai que, pour dire la vérité, pour ne rien cacher à nos auditeurs, on a de gros problèmes avec l'outil technique qui nous permet de vous rappeler, de vous faire passer à l'antenne. Si vous me permettez l'expression, cet outil a bugué. Donc, on fonctionne comme on peut. Les techniciens s'arrachent les cheveux pour essayer, évidemment, d'avoir des auditeurs auditeurs sur l'antenne, donc pas de panique, tout va bien. Jean de Dieu, vous êtes en Australie, merci de nous écouter si loin. Vous êtes burundais, donc vous suivez de près la situation dans votre pays et vous souhaitiez réagir à l'initiative des évêques burundais qui ont appelé cette semaine à un dialogue n'excluant aucun acteur de la crise dans laquelle le pays est plongé depuis la fin du mois d'avril. Vous saluez cette initiative, mais vous êtes très sceptique, Jean de Dieu. Alors, bon, on a un problème, c'est-à-dire que je pense que Jean de Dieu ne nous entend pas, et pour l'instant, il n'y a personne d'autre au standard. Donc on va essayer, évidemment, de régler tout ça au plus vite, au mieux, et alors que vous êtes nombreux à souhaiter réagir. Jean de Dieu voulait nous parler du Burundi, et nous avons Philippe au téléphone. Philippe, bonjour. On va parler d'un tout autre sujet avec vous. Vous êtes à Paris, vous souhaitez réagir à la crise migratoire en Europe. Il y a eu deux réunions très importantes cette semaine. Mardi, les ministres de l'Intérieur des 28 qui ont fini par trouver un accord s'agissant de répartir 120 000 réfugiés dans les différents États membres de l'Union européenne. Et puis, il y a eu ce sommet extraordinaire avec tous les chefs d'État le lendemain, où là, l'Europe a dit qu'il fallait tout faire pour essayer de freiner l'afflux de réfugiés, et l'Europe a décidé de débloquer 1 milliard d'euros pour aider les pays les plus proches de la Syrie et de l'Irak. Comment vous réagissez, vous, à cette gestion de la crise par les différents pays européens ?
Alors, écoutez, on peut dire que là, c'est un petit pas dans la bonne direction, mais enfin, moi, je constate que que l'Union européenne est extrêmement mal organisée, extrêmement divisée. C'est assez désastreux, en fait. Hein. La politique européenne est très mauvaise, ne fonctionne pas. Voilà ce que la première impression.
Mais vous êtes surpris, Philippe, vous, par l'attitude, le fossé qui se creuse entre l'Est et l'Ouest, ou pas du tout ?
Bah écoutez, oui, le fait que certains pays se trouvent avec le premier afflux, comme la Grèce, la Hongrie, l'Italie, et qui n'aient obtenu jusqu'ici aucune solidarité des autres pays de l'Union, et qui n'en obtiennent toujours pas de certains, fait qu'il y a de fortes dissensions. Ça fonctionne pas.
Alors, pendant que je vous écoute, je lis le courrier électronique que vous nous avez envoyé. Vous mettez en cause l'Allemagne. Vous dites l'Allemagne a décidé en cavalier seul d'accueillir de nombreux migrants retenus par la Hongrie sans expliquer pourquoi elle le faisait.
Oui, tout à fait. C'est une décision unilatérale, ce qui est aberrant. C'est contraire aux règles de l'Union, enfin au fonctionnement normal de l'Union. Et puis, oui, ce que je pense clairement, c'est que l'Allemagne a besoin de ces gens-là, parce que déjà elle a une faible natalité, ce qui n'est pas le cas de la France, par exemple. Et ces gens-là sont... Il y a beaucoup de gens diplômés, notamment parmi les Syriens. Ce qui fait que c'est intéressant. Il y a un intérêt pour l'Allemagne à les faire venir.
Bien sûr, un intérêt. Même le patronat soutient la chancelière pour accueillir le plus grand nombre de réfugiés. Le patronat manque de main d'œuvre à cause notamment, effectivement, de cette faible natalité. Je ne sais pas si vous avez écouté hier Philippe Manuel Valls, le Premier ministre. Il a annoncé que la France accueillerait finalement au grand maximum 30 000 réfugiés. C'est suffisant ? C'est trop, selon vous ? Quelle est votre position ?
Moi, je pense que les pays comme la France, qui interviennent énormément à l'étranger, militairement et politiquement, ont un devoir de solidarité bien plus important que ça. Si je prends l'exemple de la Libye, il n'y a pas que des Syriens qui viennent en France actuellement par des moyens illégaux, on va dire. La Syrie, c'est quand même la France qui est la Libye, pardon. C'est quand même la France qui est intervenue en Libye, qui a totalement désorganisé ce pays, et beaucoup de gens ont fui dans tous les coins. Donc ensuite, c'est logique qu'il y ait des réfugiés qui fuient dans tous les sens et qui passent par chez nous. Alors, on a un devoir de les accueillir ou de les laisser passer. Voilà mon point de vue.
Et prendre le problème, s'attaquer au problème à la base, quand on parle de la Syrie, à savoir intervenir peut-être militairement, ce que compte faire la France uniquement par des opérations aériennes. Est-ce que vous pensez que c'est un début de solution ou pas ?
Non. Moi, je ne crois pas du tout aux interventions armées de nos pays. On a mis beaucoup de désordre. sauf en Irak où la France n'a pas voulu aller avec Monsieur Bush. Mais on a mis beaucoup de désordre dans les pays du Moyen-Orient. Je pense que ça suffit. On continuera de mettre le désordre. Je sais que Daesh, c'est terrible, mais il suffit de voir l'Irak qui a été détruit par les États-Unis avec l'aide d'un certain nombre de pays européens. Et avec bon, les États-Unis ont dit qu'ils allaient reconstruire l'Irak, qu'ils allaient refaire un gouvernement, et on voit que c'est terrifiant là-bas. Il y a des clans, il y a des clans religieux, il y a un désordre oui. terrible. Et donc je ne crois pas du tout aux interventions. Je pense qu'il faut surtout arrêter d'aller régler les problèmes politiques chez les autres. Il faut dialoguer, il faut échanger.
Merci Philippe de nous avoir appelé. On vous a longuement donné la parole, mais vous l'avez compris, on a un problème avec l'outil technique qui nous permet de rappeler les auditeurs et de vous faire passer à l'antenne. Donc voilà, Philippe a eu, à cause de nos problèmes, la chance de pouvoir longuement s'exprimer sur notre antenne. Il y avait beaucoup d'auditeurs et malheureusement on ne peut pas les passer à l'antenne s'agissant de la crise que vient de vivre le Burkina Faso. Le pays reprend sa vie normale, si on peut dire, depuis maintenant un peu plus de 24 heures, avec le retour de la transition, le retour du président Michel Cafondo. Il a été rétabli dans ses fonctions. Qui avons-nous ? On me dit Olivier. Alors, je ne sais pas de quoi veut parler Olivier. Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour, Juan. Bonjour, RFI.
De quoi voulez-vous parler ?
Oui, je veux parler de la situation actuelle.
Où ça ?
Les activités européennes évidemment
au Burkina Faso.
Leur cours normal.
Au Burkina Faso.
Voilà, au Burkina
Faso. Ah, très bien, parce que je ne savais pas. On me dit, oui, on a Olivier, donc voilà, je ne sais pas de quoi vous vouliez parler. Bah, ça tombe bien, j'étais en train de parler du Burkina Faso. Vous constatez que la vie reprend son cours normal ?
Oui, depuis, à partir d'hier, les activités reprennent mais très timidement. Notamment, on a pu constater que les stations d'essence qui étaient pratiquement toutes fermées commencent à rouvrir. Et il est prévu que à partir d'aujourd'hui, il y ait un service minimum, notamment pour au niveau des banques.
Au niveau des banques, parce qu'il y a toujours cette grève, ces grèves et la grève générale qui paralyse le pays. Ça signifie que les syndicats, la société civile maintient la pression. Il y a certes eu le retour de la transition. Il y aura d'ailleurs dans la journée un conseil des ministres. Mais malgré tout, la pression de la société civile est encore très forte, car il y a plusieurs questions qui restent en suspens, notamment l'avenir du RSP. Que faut-il faire de ce régiment qui était à l'origine du coup d'État. Vous avez un élément de réponse ou pas ? Vous avez un point de vue tranché sur cette question ?
Oui, absolument. Je pense que la question du RSP est tranchée dorénavant. À mon humble avis, il faut que, dès le premier conseil des ministres, les autorités entérinent le décret qui avait été pris par le président intérimaire de la transition pour la dissolution du RSP.
Ouais.
Du reste, dans la pratique, ils auraient commencé à faire l'inventaire de leurs armes. Certains ont déposé leurs armes depuis. Que les autorités politiques et militaires prennent les mesures nécessaires pour les réaffecter à d'autres chats, les insérer notamment dans les autres unités.
Ouais.
Ouais,
l'avenir du RSP fera évidemment l'objet de discussions, des négociations. Il sera également question de l'amnistie des putschistes, l'amnistie que les putschistes réclament. Et puis, autre grand chantier qui attend les dirigeants de la transition et l'ensemble de la classe politique du pays, c'est la présence ou pas des pro-compore aux prochaines élections. Merci à vous tous et désolé encore une fois pour tous ceux qui patientaient au standard et qu'on n'a pas pu basculer sur l'antenne. L'outil technique qui nous permet de vous faire passer en direct sur l'antenne des RFI a bugué. Et je vous cache pas qu'il y a beaucoup de monde derrière en technique pour essayer de régler ce problème. J'espère que la Redon, que ça ira mieux pour vous.
Ça ira mieux pour moi, vous êtes gentil. Vous savez qu'on ne reçoit plus du tout de téléphone dans toute la maison. Le problème est un tout petit peu plus compliqué.
Alors,
oui.
Je suis pas au courant, il n'y a plus de téléphone dans la...
Non, ça marche plus.
Dans RFI. Bon, avec ça, on va bien travailler. Vous allez nous parler tout à l'heure avec vos invités des objectifs du développement durable.
Exactement. Vous savez qu'aujourd'hui démarre à New York l'Assemblée générale des Nations Unies. Les dirigeants du monde entier vont adopter 17 objectifs de développement durable, ce qu'on appelle les ODD, dont celui de mettre fin à l'extrême pauvreté d'ici à 2030. Alors, des progrès importants ont été réalisés au cours des dernières années. L'extrême pauvreté, la mortalité infantile ont été réduites de plus de moitié. Cependant, il y a toujours 1,2 milliard de personnes qui vivent avec moins de 1 euro par jour. L'adoption de ces objectifs de développement durable est donc une étape historique. On va voir quelles sont les avancées.